Ready?
Let's go!
Touchdown!
Ready, set, BPM, BPM, BPM!
Le Focus NFL.
Juste avant l'arrivée de nos mangeux de Puck, dans une quinzaine de minutes, on s'entretient avec notre chum David Gilbert. On jase NFL un petit peu du podcast Premier les buts. Comment ça va, David?
Salut, David.
Hey, écoute, salut les boys. Ça va très bien. Puis, ben, tu sais, Greg, toi, tu le sais, je suis un gros, gros fan de NCAA. Grosse semaine pour la famille Owe. On sait que Odefa Owe a signé avec les Commanders pour presque 100 millions de dollars.
Ça en revient pas encore.
Son frère, il y a littéralement 10 minutes, qui joue pour les Wildcats de Kentucky, a fait un jeu complètement fou dans March Madness, faire un 3 points de la ligne de milieu avec 0.2 secondes à faire pour forcer la prolongation. Puis ensuite, deux blocs en prolongation pour aider son équipe à gagner. C'est le March Madness. Puis écoutez, si vous n'avez pas vraiment d'intérêt pour le basketball, je vous invite quand même à regarder ça parce que c'est écœurant, c'est vraiment bon.
Ah oui, c'est toujours 11... des belles histoires.
Ouais, puis on a 11 Québécois qui jouent cette année dans le tournoi.
Quand même. Fait que
pourquoi pas regarder ça sérieusement? Donner une chance à ce sport-là, vous allez capoter, vous allez vraiment triper.
Ah, le March Madness, c'est une compétition printanière extraordinaire à chaque année, t'as bien raison.
Mm. Ah oui, effectivement. Puis on se rappelle, tu sais, ça marque tout le temps, même si on le suit de loin, tu sais, on le suit quand même un peu, puis ça marque de dire telle année, il y a eu un upset et c'est telle équipe qui l'a emporté. Il y en a tout le temps une qui s'immisce puis qui s'en va loin dans le tournoi, puis ça fait. Ça met la lumière sur des joueurs qui n'auraient peut-être pas eu autant de visibilité avant. Donc, t'as raison, David, de le mettre en lumière. Mais là, écoute, il y a peut-être une grève qui s'en vient dans la NFL. Là, tu piques ma curiosité un peu.
Écoute, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2012. On parle de plus en plus d'une grève des arbitres dans la NFL.
Ah, ouais.
Leur convention collective se termine au mois de mai, donc dans à peu près un mois et demi. Il n'y a toujours pas d'entente. Puis non seulement il n'y a pas d'entente, mais la NFL a commencé cette semaine à regarder pour engager des arbitres substituts qui pourraient, jusqu'au mois de juillet août, avoir des formations pour pouvoir commencer la saison du bon pied. Mais je te rappelle qu'en 2012, quand c'est arrivé, ça a été un bordel total. Ça a duré 3 semaines de saison régulière. Ça s'est terminé par ce qu'on appelle communément le Fail Mary, où on avait eu 2 arbitres dans la zone des buts qui avaient appelé un touché, un touché, l'autre pas de touché, qui s'était regardé en faisant « on fait quoi maintenant? » C'était le dernier jeu du match. C'était Russell Wilson qui venait de faire cette passe-là. Finalement, ils ont appelé touché. La NFL a déclaré quelques heures après « non, non, c'était pas un touché, c'est une erreur. » Puis 3 jours après, Roger Goodell disait « vous ne méritez pas ça, les fans. On va faire revenir les arbitres réguliers dans les matchs de la NFL. » Fait qu'on s'enligne peut-être vers ça, mais si la NFL ne serait-ce qu'une petite mémoire, là, ils vont se rappeler qu'en 2012, les arbitres substituts, ça avait été vraiment, vraiment désagréable pour tout le monde. Ça avait été une grosse tâche sur l'image de la NFL.
Ouais, c'est sûr. Il y en a plusieurs qui vont dire, si les arbitres font la grève, je veux dire, c'est-tu si dramatique que ça s'il y en a d'autres qui s'en viennent les remplacer, là? On a vu, tu sais, il y a eu plusieurs appels ou non-appels dans les dernières saisons qui ont fait, je veux dire, ils peuvent pas être parfaits en même temps. Ils ont tellement une job difficile, que ce soit dans n'importe quel sport, là, tu sais, au hockey, au baseball et au football également. Là, le sport s'en vient de plus en plus rapide, puis les joueurs sont de meilleur en meilleur pour camoufler les pénalités, ces trucs-là, mais quand même, on va suivre ce qui va se passer. Écoute.
Ben, ajoute à ça, Greg, là, on est rendu avec des télévisions 4K hyper haute définition, puis on est capable de faire des reprises à la 0.01 seconde.
Ouais.
On est capable de tout voir, alors que l'arbitre, lui, doit faire l'appel directement en temps réel sur le jeu. Il n'a pas accès à ça nécessairement. Fait que c'est sûr que moi, dans mon salon, je suis comme, ben là, ça paraît, là, voyons donc. Mais en même temps, quand tu es sur le terrain puis que ça vient de se passer devant toi, des fois, tu le vois pas puis c'est normal.
Maintenant, Kyler Murray qui s'entend avec les Vikings. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est toujours pas réglé. Est-ce que c'est J.J. McCarthy à qui on va donner une chance, qui est vraiment le corps du futur, ou encore ce sera Kyler?
Attends, il y en a un autre, là. Il y en a un autre.
Oui, Carson Wentz.
Carson Wentz est revenu aussi.
T'es encore là?
Ouais, là, s'ils font partir Carson Wentz à la place des deux autres. Là.
Toujours c'est qu'il y a des blessures en fou quand on
traîne. Ouais, c'est ça.
Mais non, Kyler Murray, écoute, premièrement, pour les Vikings, c'est une signature qui a pratiquement aucun risque. Ça leur coûte 1,3 million par année, c'est-à-dire le minimum possible pour un vétéran, parce que c'est les Cardinals qui payent le restant de son salaire. On l'amène, puis l'entraîneur-chef, Kevin O'Connell, a même déclaré que pour eux, c'est important de faire venir Kyler Murray parce qu'ils ne le voyaient pas juste comme un fixe pour un an, mais peut-être quelqu'un pour le futur. Ce qui veut dire que J.J. McCarthy, c'est bien le fun, là, mais t'es à ta troisième saison puis si t'es pas capable de monter d'un cran ton jeu, ben mon chum, la porte est pas loin puis on a Kyler Murray qui pourrait prendre ta place. Fait que ça va être une grosse saison pour les deux. Puis je pense que la compétition va être saine entre les deux, c'est normal. Puis je pense que pour les Vikings, ça va être positif, surtout quand on constate qu'on a Justin Jefferson, on a Addison et compagnie qui veulent recevoir le ballon, mais l'an dernier, clairement, il n'y avait pas de corps arrière pour leur lancer. Fait que cette année, ça pourrait être vraiment une très bonne saison pour eux.
C'est comme si t'es mieux dans la NFL de prendre ton haut choix repêchage, de repêcher un corps arrière, être impatient, profiter d'un autre choix au repêchage puis d'aller en chercher un autre que de pas être bon puis de le garder à long terme. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
C'est comme
ouais,
si les organisations calculent que c'est mieux de se débarrasser. Même s'il va être bon ailleurs plus tard, on n'a pas le temps puis on passe à un autre projet.
Ouais.
Kyler Murray, c'est le meilleur exemple. Il avait été repêché l'année suivante de Josh Rosen qui avait été repêché 9e au total. Les Cards l'ont essayé un an. Ils ont fait comme non, ça marche pas. On a le premier choix l'an prochain. On prend Kyler Murray. Bye bye Josh. Puis, Krim, il restait là quelques années. Ça n'a jamais été concluant. Il a connu quelques bons moments. Mais là, je pense qu'à 28 ans, c'est le temps pour lui de relancer sa carrière. Puis moi, je pense que la situation ressemble beaucoup à celle des Colts l'an dernier. On avait Anthony Richardson, beaucoup de blessures, beaucoup de talent, mais on ne voyait pas ce que ça donnait sur un terrain. On a fait venir Daniel Jones sur un genre de projet de « Écoute, on donne une chance de te faire valoir. » Daniel Jones a connu une saison extraordinaire. Malheureusement, ça s'est terminé par une blessure. Mais là, on laisse aller Richardson, on signe Daniel Jones, ça pourrait être la même chose qui se passe avec les Vikings.
Mais à force de s'entêter comme ça, à brûler des jeunes talents parce que tu ne leur laisses pas le temps de se développer, moi, je pense que tu joues avec le trouble.
Ben, c'est que tu ouvres la porte à d'autres organisations de les prendre à rabais, ouais, de les développer, parce que ça t'a pas coûté, par exemple, un haut choix de premier tour, ce qui, dans la NFL, vaut énormément. Ça t'a pas coûté ça. Puis tu développes un corps arrière comme ça sans trop prendre de risques, à un moment donné, oups, t'as la main heureuse, comme les Colts avec Daniel Jones, ouais, mais... par exemple, comme Sam Darnold.
C'est parce que je reviens toujours avec la même maudite histoire. Aux États-Unis, t'en as-tu des corps arrière? Ouais. Ça pullule, il y en a partout. Mais t'arrives dans la NFL, puis les Eagles viennent de signer Andy Dalton. Tu sais, je veux dire, Saint-Étoile d'Arnold. Je peux pas croire qu'il y a pas de corps arrière à ce point. Tu sais, puis là, les gars, comme tu disais, Rosen, un an, ah, il sera pas bon. Ah ouais, on le garoche au vidange. Murray, il est plus bon, ça fait 3 ans. Tu sais, ils prennent pas le temps de développer les corps arrière. Moi, ça me jette à terre. Je peux pas croire.
Puis ben, je dirais que c'est la faute à certains corps arrière parce que ça monte les attentes trop élevées. Je pense à CJ Stroud, première saison extraordinaire, bat plein de records de recrues, puis amène son équipe en éliminatoire. L'année suivante, on repêche Jaden Daniels deuxième, amène son équipe en finale de conférence. Puis là, tout le monde se dit, hey, si on a le bon corps arrière, dès la première année, il peut virer de bord notre organisation. C'est des aliens, c'est des gars qui ont connu une très, très bonne saison, c'est vrai. Mais est-ce que c'est là-dessus qu'il faut que tu te bases, dans le fond, toute ton analyse? Est-ce qu'on est capable de mettre la main sur le gars qui, dès sa première année, va être extraordinaire? T'as plus de chances de te brûler que de réussir, là.
Je sais pas, il me semble que c'est déficient comme façon de penser. En même temps, qui suis-je, moi, pour juger les hautes instances de la NFL, là, mais...
On est tous capables de le faire parce qu'on en voit tout plein des flops de même, puis des gars, justement, là, qui sont laissés aller. Baker Mayfield en est un autre,
ouais,
où on se tanne rapidement, puis finalement, ben, il commence à se développer un peu plus tard, puis là, on fait comme, hey, on aurait-tu gardé... Hey, les Browns auraient-tu gardé Baker Mayfield?
Les moribonds Jets... qui ont laissé aller Darnold, qui vient de gagner le Super Bowl. Si t'avais pris le temps avec, peut-être que...
Ça, le directeur général, à l'époque, l'avait dit que... Tu sais, il allait sûrement être bon ailleurs. Mais justement, que les Jets n'avaient pas le temps de le développer.
Mais ça fait depuis Joe Namath qu'ils n'ont pas le temps. Non.
Ben. Ils ont tellement pas de temps que ça, je pense, sont rendus à 6 corps arrière depuis.
Je comprends tout ce que tu me dis, puis je suis avec toi. Mais c'est ça. On dirait que dans la NFL... Tu sais, nous autres, là... Mettons ça en perspective. Dis, hey, OK, t'as 82 matchs. Tu peux envoyer une lettre à tes partisans. Dire, on tombe en reconstruction. On va repêcher. On va rebâtir avec le repêchage. T'sais, là-bas, dans la NFL, là, ils ont 17 matchs par année. Puis si t'es pas bon pendant une couple d'années, t'as pas vraiment le temps. Faut que tu remontes. Là. Ouais. Il faut que tu bâtisses vite.
Il n'y a pas d'équipe école non plus. Le Canadien a le Rocket sur lequel il peut développer ses joueurs, mettre des ressources autour. Dans la NFL, tu fais pas de job, ben il y a rien en dessous là. C'est bonne fin de journée, mon chum, puis on va trouver quelqu'un d'autre là, puis ça va être soit universitaire, soit c'est un vétéran. On n'a pas de ligue en dessous qui nous permet de développer du talent.
Ouais. Si nous autres, on se dit qu'un défenseur, mettons, ou un attaquant qui a même pas fait le club, on pense qu'il sera pas bon. Imagine s'il est avec le club à sa première année, il performe pas. Bon, on se dit, hey, dans 4-5 ans, je te jure que lui va être bon. Dans la NFL, les autres, là, ils peuvent pas être.
Ben non,
même. Ça marche pas partout. C'est comme non, on passe au prochain, puis c'est pas grave parce que le prochain va être bon. C'est un petit peu comme ça.
Ouais.
Sinon, il y a d'autres y a d'autres gros noms qui sont sans adresse actuellement. Puis le marché des échanges qui fait toujours jaser un petit peu. Là. C'est pas réglé encore tout ça.
Non, exact. Premièrement, le classique Aaron Rodgers, là, on connaît ça depuis quelques années. Qui n'a toujours pas signé. Les Steelers de Pittsburgh sont dans la même situation que l'an dernier, c'est-à-dire on attend d'entendre ce que Aaron Rodgers a à nous dire avant de décider qu'est-ce qu'on va faire au niveau du poste de corps arrière. On a Kirk Cousins qui a été relâché par les Falcons d'Atlanta, qui lui aussi attend peut-être. Puis il y en a qui disent Kirk Cousins, s'il est intelligent, il va signer avec personne parce qu'il n'y a pas de bon club qui cherche un corps arrière. Mais en cours de saison, il y en a tout le temps des blessures, puis il pourrait se retrouver dans une bonne équipe, puis bien performer, puis peut-être même aller en éliminatoire. J'ai Brandon Ayuk des 49ers de San Francisco, qui lui n'a pas joué avec les 49ers, qui a été relâché, puis là, ben il cherche une nouvelle équipe, donc quelques bons joueurs. Puis comme tu disais, avec les échanges, on en a encore. On a eu les Broncos qui sont allés chercher Jalen Waddle, receveur des Dolphins de Miami, pour un choix de première ronde et de troisième ronde, puis ils ont échangé leur choix de quatrième ronde. C'est un gros échange de la part des Broncos. On montre, dans le fond, à la NFL que ce qui est arrivé l'an dernier, on veut que ça recommence l'année prochaine. On veut garder une équipe compétitive pour aller loin en éliminatoire. Puis pour ce qui est des Dolphins, hey, on a parlé la semaine dernière. Ils signent à gros prix Malik Willis. Puis on vient d'y enlever toutes ses armes. Il n'y en a plus, là. J'ai regardé sa liste de receveurs, là. Ça fait pitié, là.
Ouais, mais le draft n'est pas encore arrivé, là.
Ouais, non, c'est ça.
Le repêchage, moi aussi, là, je vois. C'est sûr qu'actuellement, tu regardes ça et tu dis, oh boy, ça fait dur. Mais je pense qu'on a déjà vu des situations similaires. Et je veux dire, le repêchage n'est pas arrivé. Il peut encore arriver bien des affaires. Mais juste avant de te laisser, est-ce que j'ai halluciné ou j'ai lu qu'il y a une rumeur présentement que les Rams et les Ravens seraient en train de jaser pour Davante Adams?
C'est ce que j'ai lu moi aussi. Écoute, si j'étais les Rams. Pour être honnête, j'écouterais parce qu'eux se retrouvent avec un choix de première ronde très bien placé qui leur permettrait peut-être de mettre la main sur un jeune receveur parce que Davante Adams, même s'il a été très bon, il avance en âge. Puis, crime, si les Ravens sont prêts à mettre le paquet pour aller le chercher, puis quand je parle du paquet, c'est peut-être un choix de première ronde, c'est peut-être un choix de deuxième ronde, qui sait, en voyant ce que Waddle vient d'aller chercher, ben tu dis, crime, pourquoi ne pas écouter puis voir ce qui est possible de faire, puis si ça marche. Greg, je le sais déjà, c'est quoi le nom de ton prochain chandail parce que tu es déjà un grand fan de Davante Adams et en plus, il vient jouer pour tes Ravens. On va en entendre parler tout l'été.
Ça, c'est mon David que je connais et que j'aime. Il connaît mes goûts. Il sait que j'y parlais pas de ça pour rien. Hey Dave, ça fait toujours du bien de te parler, mon ami. Merci beaucoup d'avoir été là puis on se reparle sous peu, c'est certain.
Salut, Dave.